Bonjour. Comme vous l'a dit Joe, nous continuons une série de prédications, c'est-à-dire d'enseignements bibliques, où nous parcourons en Église l'ensemble de la première lettre que Paul a écrite à Timothée et qui se trouve donc dans le Nouveau Testament. Nous avions parcouru ensemble l'introduction qui est constituée des 11 premiers versets de cet épître. L'enseignement est sur le site de l'Église, www.ecegrenoble.fr. Oui, voilà, je ne me suis pas trompé. Donc vous pouvez la parcourir si jamais vous avez manqué le début pour pouvoir bien profiter, puisque nous sommes dans une lettre, et vous-même, quand vous écrivez une lettre, eh bien, il y a une suite de passage en passage, de strophe en strophe, de paragraphe en paragraphe plutôt, sauf strophe si vous êtes un poète en plus de cela, mais en tout cas de paragraphe en paragraphe où vous expliquez votre pensée, et là nous poursuivons le déroulement de la pensée. Je voudrais juste rappeler que pour Timothée, qui est actuellement à Éphèse, qui reçoit cette lettre, il reçoit une lettre de son formateur, de celui qui l'a accompagné et enseigné, l'apôtre Paul, celui qui l'a envoyé en mission à Éphèse, une église qui était déjà beaucoup enseignée, mais qui, malgré tout ce qu'elle avait reçu, grâce à Dieu, au travers du ministère de l'apôtre Paul et de celui de Timothée, cette église était encore perclue de mauvaise compréhension de l'Évangile et d'une vie qui n'était pas en conformité avec la volonté de Dieu. Et donc Paul envoie cette lettre à Timothée qu'il reçoit comme une lettre vraiment importante qui va le ressourcer et qui est là pour l'aider et l'encourager à vivre et à continuer d'enseigner l'Évangile malgré les oppositions. Et donc dans les 11 premiers versets, l'apôtre Paul a expliqué les difficultés auxquelles Timothée était rencontré et l'a encouragé à puiser dans la grâce et à se nourrir de cette grâce qui lui a été accordée par Dieu et à ne pas se laisser égarer. Et ensuite, Paul continue son discours. Et là, vous allez voir, c'est étonnant. Si on n'avait pas la connaissance de la suite, on ne comprendrait pas pourquoi est-ce que Paul va faire un excursus pour parler de lui-même. Alors qu'il écrit à quelqu'un pour l'encourager dans ce qu'il est en train de vivre, on s'attendrait à ce que la suite des instructions vienne. Maintenant, vous allez voir dans le texte que nous allons lire, Paul fait, on dirait voilà, qu'il dérape, mais rien n'est moins sûr. Paul pèse chacun de ses mots, il est inspiré pour absolument tout ce qu'il va dire à Timothée. Et donc, je vous invite à prendre dans 1 Timothée, nous allons lire à partir du verset 12. Du chapitre 1. Donc la première lettre de Paul à Timothée. Je vais lire pour une bonne compréhension aussi le verset 11 qui fait le lien entre les deux parties. Donc après avoir rappelé à Timothée quel enseignement il a reçu, il dit voilà, cette enseignement, je lis à partir du verset 11, cet enseignement est conforme à l'Évangile qui m'a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. C'était la conclusion de cette introduction. Rien de plus que l'Évangile révèle la gloire du Dieu bienheureux. Rien ne rend Dieu plus heureux que de nous donner l'Évangile et de nous permettre de le vivre et d'en bénéficier. Et Paul enchaîne avec cet Évangile qui lui a été confié, il dit: je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, c'est-à-dire d'enseigner l'Évangile. Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi, qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Là, Paul fait référence à sa vie avant qu'il soit chrétien. Lorsqu'il était juif, il a toujours été juif, mais lorsqu'il était dans la religion judaïque, où pour lui, les chrétiens menaçaient non seulement son pays, mais aussi sa religion et son pays, parce que les chrétiens, ils avaient peur qu'ils créent une révolution et que les Romains n'aggravent la situation des juifs. Et donc Paul était mandaté pour aller persécuter les chrétiens et étouffer cette nouvelle religion qui semblait naître du christianisme. Mais Paul nous raconte que lui qui était donc blasphémateur, il a été choisi, lui qui persécutait a été choisi. Mais je continue ma lecture du verset 13. « Mais il a été compatissant envers moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis, pour ma part, l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés, au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Voilà ce texte. Je pense qu'on pourrait le résumer. Je vous livre là une des choses que je fais lorsque je prépare à chaque fois une prédication. Après avoir étudié longuement mon texte, j'essaye de me dire si je voulais le résumer en une phrase. Qu'est-ce que ce paragraphe me dit ? Et voici ce que j'ai noté. J'ai dit qu'en partant de son propre salut, Paul prouve la puissance et la patience de Dieu afin d'encourager Timothée dans son ministère. Paul va utiliser son expérience et ce que Dieu a fait pour lui pour continuer d'encourager Timothée dans son ministère. Et je voudrais souligner deux grandes choses que fait Paul ici dans ce texte. C'est que, premièrement, donc, il prouve la puissance de la grâce offerte par Jésus-Christ. Je relis, Paul dit que la surabondance de la grâce a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Paul avait des convictions théologiques, intellectuelles à propos de Jésus. Paul était un spécialiste de la loi, il avait suivi des grandes écoles religieuses et mandaté par le Sanhédrin, c'était un petit peu, si vous voulez, le conseil qui veillait à la saine doctrine du judaïsme, il était envoyé pour persécuter ces chrétiens, ces juifs et ces non-juifs qui se rassemblaient au nom de leur foi commune en Jésus-Christ. Et Paul, en allant pour les persécuter sur la route de Damas, un passage connu dans toute la littérature, un texte bien connu, il y a beaucoup de tableaux qui montrent cet exemple-là, où Paul a été arrêté par Jésus-Christ. Et Jésus s'est révélé à lui et l'a détourné de sa vocation de persécuteur pour en faire un serviteur. Il a fait naître en lui la foi. Et Paul, qui persécutait l'Église, est devenu un serviteur de cette même Église. Paul, qui voulait la détruire, a servi mieux que quiconque dans l'histoire de l'humanité à la construire. Alors qu'il était un blasphémateur, Paul est devenu un adorateur. Malgré toutes ces choses-là, malgré son opposition, Paul est très clair. Paul dit ceci, il dit « Malgré les connaissances que j'avais, j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. » Autrement dit, sans la foi que Christ a fait naître en lui lorsqu'il s'est révélé, Paul ne pouvait pas comprendre. Sous-entendu, la compréhension intellectuelle de qui Dieu est n'est pas suffisante. Elle a sa place, bien entendu. mais il y a besoin que quelque chose se passe. Et Paul le dit, c'est que malgré tout cela, malgré mon opposition, malgré ma haine de Jésus et des chrétiens, Christ a fait naître la foi en moi. C'est la définition de la grâce. Et c'est ce à quoi nous sommes attachés, c'est le salut par la foi, seul. Le salut à cause de la grâce, seul. Et comme à son habitude, Paul choisit bien ses mots. Il dit ici que son salut est une œuvre de la grâce divine. Elle trouve sa source, autrement dit, dans Dieu seul, en Dieu seul. On ne peut en aucune manière dire, et Paul ne dit en aucune manière, qu'il mérite ou qu'il a contribué à son salut. Et vous m'avez entendu plusieurs fois citer cette fameuse phrase de Jonathan Edwards qui dit qu'aucun homme ne peut contribuer en son salut si ce n'est par le péché qu'il a rendu nécessaire. Et finalement, c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il était pécheur et il a contribué en rien. Et Jésus a manifesté sa grâce et son amour en lui. La foi de Paul n'est pas née de sa recherche spirituelle propre en lui-même, ni de son zèle, mais elle est née d'une rencontre. Elle est née de la surabondance qui lui a été manifestée par Jésus-Christ. Christ est l'auteur de la foi en nous. Quelle ressource pour nous de savoir, d'être assurés que si nous avons une foi en Jésus-Christ, si nous sommes convaincus, nous avons compris qu'il nous a sauvés, ce n'est pas simplement le fruit d'une réflexion humaine et des conclusions auxquelles nous sommes arrivés, mais le fruit d'une œuvre divine en nous. Notre salut trouve son origine dans la grâce et notre salut est aussi divin dans sa réalisation. Et Paul dit que c'est Jésus qui l'a sauvé et qui l'a rendu capable d'avoir la foi. C'est lui qui a créé la foi, et la foi a bel et bien une place dans la vie chrétienne, et nous l'enseignons, nous l'affirmons, mais elle est fondée, rendue capable par la grâce de Dieu. Et il y a des phrases qu'on n'entendra jamais le jour où Christ reviendra pour juger la terre. Jamais nous n'entendrons dire à Dieu « Je voulais être sauvé, mais tu n'as pas voulu de moi ». Jamais nous n'entendrons « Je voulais être sauvé, mais tu n'as pas été assez puissant pour me convaincre ». La grâce de Dieu est souveraine et elle se manifeste dans notre vie par une réponse à la foi. Et tout ce que cela décroche, arrache des tripes de Paul, on pourrait dire presque qu'il déraille, alors qu'il est en train de raconter ce qu'il s'est passé pour lui, ça lui provoque cette phrase extraordinaire. « Au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. » On a l'impression qu'il sort encore une fois du sujet parce qu'il se met à adorer Dieu. Il parlait à Timothée, là il fait une déclaration à Dieu, on a l'impression qu'il se sent obligé d'écrire à Dieu alors qu'il vient de parler de la grâce dont il a été bénéficiaire. Il se sent obligé de dire que c'est à Dieu qu'il doit tout, à ce Dieu qui est totalement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ce Dieu qui règne depuis toute éternité, qui est dans sa gloire éternelle, ce Dieu s'est penché sur lui. Ce Dieu s'intéresse au pécheur, même à celui qui est le pire d'entre eux, celui qui est l'archétype, celui qui en est le modèle type. Ce Dieu a envoyé son Fils accomplir au-delà de tout ce que nous, par notre raison, pourrions imaginer pour être sauvés. Il a versé son sang innocent. Il a offert son sacrifice pour nous sauver. Et c'est le grand cadeau de l'Évangile qui crée en nous la puissance pour être transformé. Dieu, Paul en est bien conscient, Dieu l'a enveloppé d'une grâce qui a couvert tout son péché passé. Et c'est ce qu'il fait que maintenant il peut adorer ce Dieu-là. La mort de Christ à la croix lui a permis d'entrer dans une vie nouvelle. Christ est mort pour son péché et ressuscité, et Christ l'a uni à sa vie, à lui. Il est participant de la vie de Christ et de son activité. Et c'est comme ça que Dieu a transformé un blasphémateur en adorateur. Ce que je vous propose, c'est que nous faisions une pause désormais dans la prédication. Et on voit que Paul est poussé à adorer. Et ce que je vous propose, c'est qu'on prenne encore deux chants, les chants 87 et 150, en restant assis dans cette attitude d'adoration. Merci au groupe de musique. Et puis, nous continuerons pour la fin de cet enseignement. voyez, lorsque Paul pense au passé, pense à son histoire, même aux choses les pires qu'il a commises, en les regardant du point de vue de Dieu, ça le pousse à l'adoration. Et nous, quand nous considérons les jours passés, quand nous considérons toute notre vie, est-ce que cela nous pousse à l'apitoiement ou à la reconnaissance? Est-ce que nous voyons que Dieu, même dans les pires événements de notre vie, finalement a été capable, par sa grâce et par l'Évangile, de tout faire concourir à notre bien, parce qu'il nous aime? Voici le regard que Paul pousse sur son passé. Et par là, Paul, et c'est le deuxième point, nous prouve qu'un cas désespéré comme lui peut être transformé par la puissance de Dieu en une source d'espoir. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison ». Il va spécifier, il comprend qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Il commence du pire, il parle du pécheur et il finit avec la vie éternelle. Voilà l'espoir que Paul veut nous donner. Il se définissait lui-même comme l'exemple type. D'autres traductions traduisent par « le pire des pécheurs ». C'est l'archétype. Vous voulez un pécheur? Pensez à moi. Regardez ce que j'ai fait dans ma vie. Pour Paul, le temps qui passe n'était pas là pour lui faire oublier qui il était, mais lui servait à lui révéler de plus en plus l'étendue, la profondeur de la grâce de Dieu à son égard. Même la personne la plus opposée, même le pire sceptique que l'on puisse imaginer parmi nous, peut arriver à être sauvé et à avoir sa vie transformée par Jésus-Christ. Et si l'Évangile n'était réellement pas puissant, ce que Paul veut sous-entendre, alors l'Église ne pourrait pas continuer. L'Église aurait été arrêtée par les pires des pécheurs. L'Église aurait été entravée. Et nous voyons, nous, depuis 2000 ans, malgré toutes les formes internes, et c'est ce que Paul parle au début de cette lettre-là, les formes internes de corruption et les formes externes de persécution, qu'il n'y a jamais eu autant de chrétiens foulant la terre qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Si le christianisme n'était le fruit que d'une réflexion humaine, sans l'empreinte de la grâce divine, sans l'œuvre de Christ, si l'Église n'était pas le fruit d'un Christ qui se révèle dans la vie et qui arrache lui-même des personnes de leurs péchés, si Christ n'était pas autant rempli de patience et s'il n'était pas tout-puissant, l'Église n'aurait pas pu durer depuis tant de temps. Quand Christ a sauvé Paul, il pensait à nous ici ce matin. Il voulait nous encourager, nous, ici ce matin. Et c'est pour ça qu'il a choisi le cas le plus improbable des hommes. L'homme dont on dirait que lui, il est foutu, plus jamais on pourrait miser le moindre centime et fonder le moindre espoir en lui. Mais Jésus, Paul nous dit pourquoi il a été choisi lui, non pas en vertu de ses connaissances théologiques, de son potentiel, mais pour montrer toute l'étendue de sa patience. Autant dire qu'il faut, pour convaincre un homme comme ça, il faut une patience qui n'est pas humaine, il faut une force qui n'est pas humaine, il faut une conviction qui soit divine. Et pour nous montrer l'étendue de sa patience, Paul veut encourager Timothée, qui lui voit peut-être peu de fruits et voit des gens qui sont opposés et qui est déçu après tout ce qui a été fait. Et Paul lui dit, non mais Timothée, rappelle-toi, qui je suis? Moi. Non, pas, c'est pas moi qui fais extraordinaire, mais c'est ce Dieu-là. Donc Dieu m'a sauvé pour t'encourager toi et pour donner de l'espérance à toi, mais aussi à nous aujourd'hui. De peur que nous pensions que Dieu ne pourrait pas ou plus vraiment sauver, de peur que nous pensions que Dieu est enclin désormais à la colère seule et qu'il a fini d'être patient envers nous après toutes et toutes nos chutes. De peur que nous pensions que nous soyons allés trop loin et que nous-mêmes nous soyons devenus irrécupérables. De peur que nous pensions que nos proches, nos amis, nos membres de notre famille qui depuis des années entendent parler de l'Évangile au travers de nous ne puissent pas instantanément, subitement et de manière inattendue être sauvés par la puissance de la grâce. Aucun d'entre nous ce matin, chrétien, ne souffre pas d'avoir au sein de sa famille ou au sein de ses amis des personnes qui ne croient pas. Mais Paul, par ses mots, veut nous encourager. Il y a de l'espoir parce que Christ a choisi le pire. C'était moi. Quand Christ est mort, il savait que tout au long de l'histoire de l'Église, les chrétiens douteraient. Et il veut leur rappeler, les amis, mon peuple, regardez en arrière, considérez l'histoire. Vous regarderez à quel point vous, vous n'y êtes pour rien. Et moi, j'y suis pour tout. Mais il y a d'autres applications qu'on peut retenir de la façon dont Paul parle de lui. La première est celle-ci que je voudrais qu'on retienne. C'est l'humilité quand on considère soit notre vie présente ou notre passé. Paul ne fait jamais appel à tout ce qu'il est lui-même, à tout ce qu'il y a de force en lui. Mais toujours quand il se retourne vers son passé et qu'il parle de son ministère présent, parle de la grâce de Dieu active dans sa vie. Peut-être le missionnaire dans l'histoire du christianisme depuis Paul qui a le plus contribué à la progression de la compréhension de la mission était un Anglais qui s'appelait William Carey. À 70 ans, voici ce que William Carey a écrit à son fils pour son anniversaire. Pour l'anniversaire, aujourd'hui, je fête mes 70 ans. Je suis un exemple de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Pourtant, si je regarde ma vie écoulée, il me semble que je mérite davantage. Bien davantage d'être humilié dans la poussière. Mes péchés francs et incontestables sont innombrables. J'ai inconsidérablement négligé l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas soutenu sa cause, ni recherché sa gloire et son honneur autant que j'aurais dû. Malgré tout, j'ai été épargné jusqu'ici et maintenu dans son œuvre, et j'ai conscience d'être dans la faveur divine. Un homme qui a consacré toute sa vie, qui s'est sacrifié, qui a quitté son confort, qui est parti en Inde, qui pendant des années a traversé dans la maladie, dans la pauvreté la plus extrême, pour annoncer l'évangile à toute l'Inde et créer la fondation missionnaire la plus importante qui demeure encore aujourd'hui, cet homme-là qui a tout sacrifié se dit « Mais quand je regarde à Dieu, comment je pourrais dire que j'ai fait assez ? Qu'est-ce que ce Dieu est extraordinaire pour moi ? Quel regard sur notre vie possédons-nous ? À une époque qui tente de tout expliquer, tout justifier, quel regard portons-nous sur nos ambitions, sur notre vie, sur nos motivations et sur notre histoire ? Et un peu plus tôt, je voudrais faire le lien, sans revenir en profondeur avec ce qui a été dit avant, mais regardez, pour bien mettre en perspective ce que dit Paul. Au verset 9, juste précédemment, Paul fait une liste de ce qui caractérise les pécheurs d'Éphèse, et probablement ce qui caractérisait la vie de certains des personnes qui sont devenues chrétiennes et qui étaient membres de cette église. Il dit « Ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole, et d'une manière générale, pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement saint que vous avez reçu. » Et il poursuit en disant moi, je suis le pire des pécheurs. Et il serait peut-être vraiment, je pense, réducteur de dire que c'est simplement à cause de ce qu'il a fait contre le christianisme. Mais que Paul, au contraire, était conscient de l'étendue de la grâce et de la nature du péché qu'il habitait. Ce que Paul défend, c'est que l'évangile seul peut nous transformer. Et vous vous dites peut-être ce matin qu'il est difficile pour vous de vous identifier à un homme comme Paul. Vous n'avez jamais commandité peut-être d'assassinat comme lui l'a fait, vous n'avez jamais mené de campagne de persécution, ou peut-être que vous avez du mal ou que vous vous dites finalement il faudrait que j'en passe par là. Et la religion attire, la foi chrétienne attire les personnes qui ont été cassées, ceux qui ont besoin qu'on leur pardonne de grosses choses. Moi finalement, je n'ai pas tant que ça à me faire pardonner. Mais ces deux points de vue, que l'on soit chrétien et qu'on se dise « j'ai du mal à m'identifier à Paul parce que je ne suis pas allé aussi loin que lui » ou que l'on soit non-chrétien et qu'on dise « je ne peux pas m'identifier à lui parce que je n'ai pas fait également de choses aussi graves » sont des raisonnements qui sont faux d'un point de vue biblique pour les raisons suivantes. Ça démontre que notre vision du péché, si nous en tant que chrétiens, nous disons que nous avons du mal à nous identifier à Paul, ça veut dire que notre vision du péché n'est pas totale. Nous oublions que Paul, toute sa vie, jusqu'à ce qu'il commence à persécuter les chrétiens, avant que Christ révèle qui il était, Paul cherchait à plaire à Dieu, cherchait à obéir à Dieu. Et un peu plus tôt, c'est ce que nous avions vu deux semaines avant, Paul se met en contradiction contre ceux qui pensent que l'on peut plaire à Dieu par l'observation de la loi. Et Paul se rappelle que toute sa vie n'a été qu'un long abus de la patience et de la souveraineté de Dieu. Pas que seulement quand il s'est mis à persécuter l'Église. Imaginez, vous qui êtes chrétien depuis longtemps, qui n'avez jamais commis de choses bien terribles dans votre vie, que l'on projette là ce matin en PowerPoint, qu'on puisse se brancher sur vos pensées de toute votre vie, en présence de tous vos proches. Moi, ça serait la pire chose qui puisse m'arriver. Ma femme me quitterait, mes enfants ne voudraient plus m'attirer la parole, et vous-même, vous souhaiteriez tout ce que je quitte l'Église, je pense. Qui de nous pourrait franchir le test ? Si on regarde bien en nous-mêmes, est-ce qu'il y a besoin d'avoir commis le pire pour prétendre avoir besoin de la grâce de Dieu ? Première erreur, c'est qu'on se trompe sur la gravité du péché. Le péché est abject. Tout péché est abject aux yeux de Dieu et destructeur. Et il n'y a pas un seul mot qui soit à la hauteur pour en montrer la laideur. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament insiste tant sur la question de l'enfer et qu'il ne veut qu'il y ait aucun doute là-dessus. L'enfer, la réalité de l'enfer, est peut-être la seule chose qui nous permet de mesurer vraiment à quel point Dieu a cela en horreur et à quel point nous avons besoin de nous saisir de sa grâce. Deuxième chose, c'est une erreur non seulement de croire qu'on a moins besoin de la grâce qu'un autre, mais également une erreur quant à la nature du sacrifice de Jésus. Jésus a dû souffrir pour un homme comme Paul, comme il doit souffrir pour chacun d'entre nous. Aucun péché n'aurait pu permettre à Jésus de nous sauver autrement que par l'œuvre de la croix. Et que ce soit commanditer un meurtre ou que ce soit voler une pièce de 2 euros, c'est la même chose. Pour ces deux actes-là, Christ a dû mourir sur la croix. Et troisième chose, c'est une erreur parce que pour être sauvé, il y avait la venue de la même venue de Christ sur terre, du même plan souverain de Dieu, de sa même obéissance parfaite, de ses mêmes souffrances et de la même résurrection. La question que nous devrions nous poser est celle-ci. Pourquoi Paul veut-il nous rappeler cela ? Pour nous maintenir dans l'humilité, pour nous maintenir dans la reconnaissance et pour nous maintenir dans l'adoration. Et pourquoi Paul a rappelé cela à Timothée alors qu'il est en train de lui écrire sur les difficultés du ministère ? parce que les difficultés que rencontre Timothée peuvent lui faire oublier, peuvent le faire douter lui aussi de la puissance de l'Évangile. Qui de nous ne doute jamais? Qui de nous ne dit jamais, finalement, Dieu, est-ce que tu vas vraiment agir? Moi, je suis convaincu que tu ne vas plus le faire. Ou que cette situation, ce péché dans ma vie, cette situation dans mon couple, cette situation dans le monde, tu ne peux pas l'inverser. Ma vie, tu ne peux plus la changer. Et Paul veut encourager Timothée, parce que Timothée va devoir se battre pour l'Évangile. Et je relis ce que Paul dit à Timothée, pourquoi est-ce que Paul finalement se livre comme ça et rappelle ces choses que probablement Timothée a déjà entendues maintes fois de l'apôtre Paul. Mais Paul lui rappelle encore cela, parce que Paul lui dit, voici le conseil que je t'adresse, en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat, avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont égarés au point que leur foi a fait naufrage. Et quand on y regarde bien, Paul met en parallèle son salut et le salut de Timothée, sa mission et sa mission de Timothée et la mission de Timothée. Paul a été sauvé par la grâce seule, et il rappelle avant que Timothée a été sauvé aussi par cette grâce-là. Et Paul rappelle au début là, de cette section que c'est Christ qui l'a rendu capable d'être dans le ministère. Et Paul rappelle à Timothée que c'est également par les prophéties, par l'annonce de Dieu, que Timothée a été installé, consacré au ministère. Donc Paul rappelle l'origine de la vocation de Timothée, ce sont ses prophéties. On ne sait pas dans quel contexte elles ont été faites, ni en quoi elles consistaient exactement en termes de contenu, mais ce que Paul veut, c'est que Timothée n'ait pas le moindre doute que c'est Dieu qui l'a appelé et qui l'a consacré à son service. Et deuxièmement, Paul veut rappeler à Timothée quelle est la nature du combat. Et le mot que Paul utilise là, il n'y a pas de doute, Paul parle du combat, du même mot que nous on utilise, le même mot que nous on utilise pour parler de combat, vraiment au sens propre du terme, comme au sens figuré. Ce n'est pas un appel à prendre les armes, mais Paul lui rappelle que ce à quoi Paul doit comparer son ministère, comparer sa vie dédiée à l'Évangile, c'est un combat permanent, parce que Timothée est découragé. Et quand on est en situation de combat, on prend des coups, on est blessé, on est découragé, on est fatigué, on est meurtri. Et c'est ce qui caractérise toute la vie de toutes celles et ceux qui veulent vivre pour Jésus-Christ. Des épreuves de nature différentes selon les époques et les situations que l'on vit. Des craintes de nature différentes, mais elles sont belles et bien présentes. Et donc, il faut se rappeler que Dieu nous a appelés, nous a sauvés, et Dieu nous appelle à endosser ce rôle-là, à accepter que nous sommes dans un combat, mais à livrer ce combat sans se tromper de manière, ni se tromper de combat. C'est-à-dire un combat qui est celui de la défense et d'une vie en conformité à l'Évangile qui nous a été confié, comme il a été confié à Paul et à Timothée. Le bon combat est le combat de l'Évangile, et il consiste, dans le contexte, à proclamer cet Évangile envers et contre ceux qui ne sont pas d'accord, et à également le vivre, en s'enracinant dans la grâce, en se rappelant que pour nous, tout est grâce et qu'on n'est pas supérieur aux autres. Le combat consiste pour Timothée à rappeler à l'Église la puissance de la grâce et les dangers pour ceux qui s'y en écartent. Et je pense que Paul, ici, on a ce verset 20 qui est particulièrement violent quand on le lit comme ça. Et si c'est la première fois que vous entendez un texte de la Bible, vous vous dites « mais c'est quoi ce truc de barbare ?» Hein, parmi ceux, eux, se trouvent Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan et qu'ils s'apprennent, afin qu'ils n'apprennent à ne plus blasphémer. Quelle phrase choc! Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Paul veut dire par là, en nommant ces personnes-là, il sait que Timothée est au courant, c'est des personnes que Timothée connaît puisqu'il les nomme. Et en fait, est-ce que Paul parle d'un pouvoir qu'il a de jeter un sortilège ou un sort sur quelqu'un, de, comme on pourrait dire, je ne sais pas, comme le faire, de le maudire. Qu'est-ce que quand Paul dit « je le livre à Satan, je les ai maudits » Non, pas du tout. Livrer à Satan, dans ce contexte et dans le vocabulaire de Paul, et je n'ai pas le temps de vous faire toute la démonstration, mais je vous amène aux conclusions, c'est clairement dire que la personne ne fait pas partie du corps de Christ, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie du royaume de Christ, elle fait partie d'un autre royaume. Et dans la vision biblique du monde, nous sommes soit dans le règne et sous le règne de Jésus-Christ, soit sous le règne de ce monde et du prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. Et Paul, face à des personnes qui peut-être sont celles qui ont instigé ces problèmes doctrinaux qui sont enseignés dans l'introduction, Paul dit que ces personnes ont fait naufrage, et il prend ici une image qui est progressive de personnes qui se sont éloignées de la foi. Paul ne parle pas ici de perte de la foi, de la doctrine de est-ce qu'on peut perdre son salut ou non, mais parle à des personnes qui enseignaient des choses dans l'Église qui n'étaient pas conformes à ce en quoi l'on doit croire. Et Paul dit, ces personnes, je leur ai dit, vous n'appartenez pas à l'Église et je vous livre à Satan. C'est-à-dire que Paul et Timothée, et c'est ce qu'on va voir dans la suite du texte, la responsabilité, une des responsabilités des responsables de l'Église que Dieu met en place, c'est de protéger l'Église et de protéger l'Évangile. Parce que cet évangile n'est pas un concept juste, c'est une réalité qui s'est produite dans l'histoire. Un Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous sauver. Et il faut défendre que cette œuvre-là seule suffit pour nous conduire à la vie éternelle. Et donc, en faisant ça, Paul montre qu'il faudra à Timothée du courage, en lui rappelant cela. Et en même temps, il y a une forme de pédagogie pour Timothée, et aussi de l'espoir. Regardez ce que dit Paul, hein, il dit « Je les ai livrés à Satan, non pas pour les maudire, mais pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. » Pour que, loin de l'Église, loin de la présence des autres, non seulement Paul protège l'Église, mais en même temps, pour que Dieu, dans ce contexte-là, puisse leur parler et leur rappeler qu'ils sont complètement en dehors des clous et qu'il les conduise à la repentance. Le but n'est pas de faire du mal à ceux qui ne sont pas d'accord, mais de veiller à protéger l'Église et en protégeant l'Église, également permettre à ces personnes d'être confrontées à leurs faux raisonnements et d'être confrontées et de permettre à Dieu de les rencontrer aussi par cet acte de discipline qu'a opéré Paul. Bien le temps de conclure. Dans le début de cette lettre, dans son introduction, Paul rappelle à Timothée que l'Église est en danger, mais qu'il doit faire confiance à Dieu et à son message. Et maintenant, Paul dit à Timothée, « Considère la grâce de Dieu à mon égard. Ça va t'aider à poursuivre le bon combat. Dieu est à l'œuvre. Ce qu'il a fait en moi, il peut encore le faire. Tout ce que Dieu nous accorde, c'est pour nous montrer sa puissance et sa patience, afin de produire quoi ? Comme nous le voyons chez Paul, produire avant tout l'adoration, la reconnaissance. Et deuxièmement, l'engagement. L'engagement à le servir, à ce que nous aussi nous puissions dire « Mon salut a été utile pour montrer aux autres, non pas que moi je suis meilleur qu'eux, mais que si moi j'ai été sauvé, alors toi aussi tu peux l'être. » Et que je sois porteur de cet espoir-là, que Christ est venu dans le monde, comme le déclare Paul, pour sauver des pécheurs dont moi je suis le premier. Pourquoi combattons-nous ? Il y a des combats que nous devons mener dans notre vie, des combats pour se faire une place dans notre société, pour réussir, des combats pour bien éduquer nos enfants, des combats pour simplement continuer de vivre. Mais est-ce que nous avons aussi le combat pour l'Évangile qui fait partie de notre vie ? Est-ce que nous regardons, je vais même plus loin, notre vie comme découlant, et tous les combats de notre vie comme découlant du combat pour l'Évangile avant tout ? C'est-à-dire que de tout faire dans notre vie pour, comme un acte d'adoration pour Dieu et pour concourir au progrès des autres au travers du témoignage de l'Évangile au quotidien que nous pouvons leur apporter, et y compris dans l'Église. Est-ce que nous combattons pour aider l'Église à grandir, comme Paul invite Timothée à le faire, et comme ce texte nous invite à le faire? Ou est-ce que nous sommes simplement en mode consommation, à vouloir recevoir, à regarder derrière et nous complaindre, à être dans l'insatisfaction, ou à nous projeter ensemble pour servir l'Évangile qui nous a été confié et qui est si cher aux yeux de Dieu? Amen.